Cette semaine, Virginie Bloch-Lenné rencontre Daniel Defer. Ce soir, fils de commerçant.
Bonsoir Daniel Defer.
Bonsoir.
Après une agrégation de philosophie, vous avez enseigné la sociologie à Paris 8. Vous avez été un militant politique de gauche d'abord lorsque vous entrez à l'école normale supérieure, gauchiste ensuite. Âgé d'une trentaine d'années en 1968, vous devenez membre de la gauche prolétarienne clandestine. Entre-temps, vous rencontrez Michel Foucault qui fut votre compagnon pendant 20 ans et sous votre impulsion naît le GIP, le groupe d'information sur les prisons. Lorsqu'en juin 1984, Michel Foucault meurt du sida, vous créez la première association française de lutte contre le sida, AIDE, dont vous restez président jusqu'en 1991. Vos luttes pour les ouvriers, les prisonniers, contre le sida, non seulement sont toujours pratiques, et pas seulement théoriques, mais sont toujours liées à votre histoire. Et on verra cette semaine, elles sont plus ou moins liées à votre histoire. Comment se font ces liens ? Pour préparer notre rencontre, j'ai lu des entretiens que vous avez accordés à deux personnes que vous connaissez bien, Éric Favreau et Philippe Artière. Et si ces luttes sont toujours liées à votre histoire, dans ces entretiens, vous restez discret sur ce qui vous concerne, sur ce qui concerne votre personne, quand ça ne concerne pas un groupe. Et donc nous tâcherons, je tâcherai de respecter cette discrétion. Il y a quelques jours, je vous ai téléphoné pour me présenter. Vous m'avez donné quelques indications pratiques pour venir ici, chez vous, rue de Vaugirard, dans le 15e arrondissement. Et moi, j'avais en tête le début de ces entretiens. Alors, vous commencez par le début, votre naissance en 1937 en Bourgogne, mais vous ne dites pas où en Bourgogne. Alors, je me suis dit, la première question que je vais poser à Daniel Defer, c'est dans quelle ville de Bourgogne êtes-vous né ? Vous m'avez dit au téléphone à propos de cette pudeur, mon frère, un de mes frères m'a dit, heureusement, tu n'as pas dit où en Bourgogne. Donc, ma première question... C'est raté. Alors, vous étiez l'aîné d'une fratrie.
Oui, nous sommes quatre garçons. Alors, je n'ai pas dit où c'était en Bourgogne, effectivement, parce qu'il y a des éléments sur la découverte de la sexualité qui sont très liés à des gens que peut-être des gens ont encore connus. Donc, je n'ai pas voulu m'apesantir. Bien sûr, j'évoque quand même la proximité de Romain Rolland. Donc, on devine à peu près dans quelle région, quelle partie de la Bourgogne vivait Romain Rolland. C'est quand même connu. Et il fréquentait ma famille et il venait se faire coiffer chez mon père.
Votre père était coiffeur et parmi ses clients, il y avait Romain Rolland.
Voilà. Ouais. Donc, ça situait un peu la région.
Votre père vous a eu à 40 ans ?
Oui, mon père était assez âgé quand je suis né. Et ça a toujours été pour moi une chose un petit peu lourde, je dirais, ou légère. Enfin, en ce sens qu'il n'était peut-être pas assez présent. Et en plus, sa santé était très fragile. Au fond, j'ai été quand même associé très tôt à des problèmes médicaux. À l'époque, c'était la tuberculose. Qui était transmissible, qui obligeait à pas mal de précautions. Et je me rappelle que dans la création de AIDE, notre trésorier avait connu avec sa mère cette même épidémie et nous avions une sorte de passé commun pour avoir vécu dans la proximité de la tuberculose. C'est vrai que les questions médicales sont entrées très très vite dans mon horizon personnel.
Il avait été deux fois mobilisé, votre père ?
Oui, mon père a fait la guerre de 14 et la Deuxième Guerre mondiale. Je l'ai évoqué parce que, en fait, je ne voulais évoquer aucune chose sur ma vie personnelle. Parce que, en réalité, le projet de ce livre, c'est pas mon projet, c'est mon association, AIDE, qui souhaitait avoir son histoire. Et moi, j'écris beaucoup, mais des articles ou des cahiers au jour le jour, des mains courantes, mais j'ai pas du tout un goût ni pour l'écriture ni pour le prestige de l'écriture. Donc je ne suis pas, je suis un écrivain comme disait Roland Barthes, mais pas un écrivain. Et donc j'avais laissé beaucoup de cahiers à disposition de Aide pour faire l'histoire, mais mon écriture est si illisible que moi-même j'ai du mal à m'en servir. Donc mes camarades insistaient beaucoup pour qu'il y ait une histoire de Aide. Ça va Aide à 30 ans puisqu'elle est liée à la mort de Michel Foucault, et ils souhaitaient une histoire de Aide, et c'est eux qui ont obtenu des éditions du Seuil ce projet d'interview avec deux personnes qui connaissaient bien le sujet. Philippe Artier avait été au Conseil national du SIDA dont il était le rapporteur, il était au centre Michel Foucault dont il était le président, donc il me connaissait bien, il connaissait ma vie, mais même des tas d'anecdotes. Et puis Éric Favreau a couvert l'histoire du SIDA au sein de Libération, donc tous les deux me connaissaient assez, et pour vouloir eux que j'inscrive la création de Aide dans une histoire plus biographique.
Et vous, ça ne vous tentait pas trop, ça?
Ça ne me tentait pas trop, et très tôt, naturellement, les questions biographiques, ça concernait forcément pour eux ma sexualité, ce dont j'avais pas follement envie de parler, et puis ça concernait aussi Foucault, dont je ne voulais pas non plus trop parler. Donc le livre s'est trouvé me déporter vers des choses que je voulais plus discrètes, et ce qui m'a même d'ailleurs conduit à les reformuler, parce que je m'étais laissé aller dans l'amitié. Nous avons écrit ce livre, enfin nous l'avons j'ai raconté ce livre dans un cadre assez unique. Philippe Artier à ce moment-là était à la Villa Médicis, il était pensionnaire à la Villa Médicis, donc nous avons fait ce livre dans ce cadre somptueux de la Villa Médicis.
Un des plus beaux cadres, oui. Mais vous racontez, c'est aussi raconter votre enfance, le milieu social de vos parents, vos souvenirs de la Libération, puisque né en 37, vous en avez sans doute. Oui,
oui, et alors bon, c'est vrai que j'ai pas tellement de souvenirs. Bon, il voulait que je raconte un peu ma vie. Par contre, c'est vrai que ce moment de la Libération était très fort. Il était très fort parce que je l'ai vu toute une journée entière, une libération, c'est quand même arrivé. Et ces jours-ci, je suivais avec beaucoup de passion la retransmission du débarquement. Bon, j'ai visité les plages, tout ça. Bon, c'est vrai que c'était un moment fort de ma vie. Et,
parce que c'est la semaine de célébration, enfin, l'anniversaire du débarquement.
Oui, c'est l'anniversaire du débarquement. Bon, la libération de ma ville s'est faite quand même un peu plus tard. Elle s'est faite, je crois bien, en août. Mais j'étais présent. Et alors, c'est très curieux parce que j'avais... un employé de mon père venait souvent me chercher à l'école maternelle pour que je voie passer les péniches, je sais plus comment on appelait ça, les bateaux des Allemands qui faisaient sauter des maisons pour faire passer les bateaux dans la ville sur des camions. Et c'était toujours très impressionnant et c'était un spectacle. Donc j'avais comme ça une curiosité pour ces événements militaires. Et un matin, j'étais dans la rue, je sais pas pourquoi, j'étais si tôt dans la rue et j'ai vu arriver les autobus de Maquisard. Et c'était des autobus qui m'étaient familiers, c'est ceux que nous prenions pour aller en vacances dans le Morvan. Et là, ils arrivaient du Morvan. Il y avait quand même, j'avais un de mes cousins qui était dans les maquis du Morvan, tout ça. Bon, j'ai beaucoup de souvenirs liés aux maquis du Morvan. Et donc j'ai vu arriver ces camions. Et c'était très curieux parce que nous étions mitoyens d'un hôtel qui était occupé par les Russes blancs. Et les Russes blancs avaient l'habitude de se battre, de se saouler la gueule et de s'entretuer la nuit. Et le matin, on voyait arriver des chars à bœufs portant des cercueils orthodoxes, vous savez, ces cercueils en biseautés, une forme différente des cercueils que nous avons l'habitude d'utiliser. Et je voyais arriver des fois deux, trois cercueils sur ces chars à bœufs et des cadavres repartaient comme ça. Et nous vivions un peu dans l'angoisse de ces bagarres
mortelles,
du bruit.
Dont l'issue était... Ouais.
Et alors, cette nuit-là, nous avions tellement l'habitude du bruit que nous n'avons pas entendu le départ des Allemands. Et ce départ des Allemands, c'est une histoire assez mystérieuse que j'ai mis beaucoup de temps à apprendre et à comprendre les histoires sociales de la ville. C'est qu'un des amis de mes parents à négocier dans... Il était un des cadres de la résistance et de la municipalité. Il a négocié le départ des Allemands alors que les résistants souhaitaient un affrontement militaire. Mais lui, il a eu très peur que la disproportion des forces et il a négocié le départ des Allemands. Et ce départ des Allemands, nous ne l'avons pas entendu alors qu'on était mitoyens de l'armée et qu'on les entendait toutes les nuits pratiquement. Et donc, le lendemain matin, dans un calme absolu, je vois arriver les maquisards et c'est immédiatement, c'est la fête, c'est toutes les pancartes sont arrachées, c'est un feu sur la place, on pénètre l'hôtel qui était la commandanture, je récupère un beau casque que mes camarades plus âgés me reprennent tout de suite des mains et m'en donnent un moins beau. Donc tout ça, c'est des moments très très forts. Et il y a une chose que j'ai quand même voulu raconter dans ce premier souvenir, c'est que bon, mes parents m'ont fait faire un fusil de bois pour que je joue avec mes camarades. J'étais dans ma septième année, je joue aux résistants. Et j'avais donc un casque allemand, j'avais un fusil de bois. Et la première chose que j'ai obtenue de mes camarades, c'est d'être l'infirmière et d'avoir le droit de porter un voile d'infirmière et sur lequel ma mère a fait avec son rouge à lèvres une croix rouge. Et j'ai donc mon premier acte de la participation, ça a été d'être l'infirmière. Et ça m'a quand même frappé, puisque c'était l'histoire de Ed, j'ai pas pu m'empêcher de raconter cet épisode.
Vous vous en souvenez ou c'est vos parents qui vous...
Ça je m'en souvenais. Parce que mes parents n'ont même pas vu. Enfin bon, si, ils l'ont vu, puis ils m'ont fait la croix. Mais enfin, c'était quand même sur la promenade... On jouait avec les enfants, j'ai permuté les rôles, non.
Vous pouvez, Daniel Defer, me faire un portrait de votre mère?
Oui, ma mère compte beaucoup pour moi. C'est une femme que je crois très remarquable. Je crois que toute sa vie, elle a marqué tous les gens qui l'ont approchée. Mes camarades d'école même venaient à la maison essentiellement pour ma mère, qui avait un rayonnement. Alors, ma mère avait dans sa vie une souffrance qui, je crois, nous a beaucoup marqué. Je crois que si on a été sensible à l'exclusion, à la souffrance, c'est quand même l'histoire de notre mère que nous avons vécue. Enfin, je crois, d'ailleurs, le premier chapitre de ce bouquin s'appelle « Où commence une vie ?». Je pense que mon enfance est indissociable de celle que je n'ai pas connue, mais de mes parents, que j'ai connue par leur récit. Et ma mère était de l'assistance publique. Elle est née en 1907 à Paris. Je ne sais toujours pas l'origine de ses parents, parce que j'ai fait des recherches à l'assistance publique, mais la chose la plus étrange que j'ai apprise il y a un an seulement, c'est qu'elle a été mise à l'assistance publique par un des fondateurs de la Ligue des droits de l'homme, un des militants de l'affaire Dreyfus, Émile Kahn. Ça, elle ne l'a jamais su, je l'ai découvert justement. Ma grand-mère était arrivée à Paris, émigrée, donc je ne sais pas de quel pays, si c'est la Pologne, la Russie, l'Ukraine peut-être. Et elle a habité ce quartier qui s'appelait autrefois la rue aux Juifs, qui maintenant s'appelle la rue Eugène-Sue, qui s'appelait déjà la rue Eugène-Sue, mais qui autrefois s'appelait la rue aux Juifs, précisément parce que les Juifs d'Europe centrale se regroupaient dans ce quartier près de Barbès. Et son voisin était Émile Kahn, et il a eu pitié de cette misère, et c'est lui qui a abandonné ma mère à l'assistance publique. Et il l'a donc abandonnée avec ce respect que ma grand-mère probablement avait demandé, religion israélite. Et c'était après la séparation de l'Église et de l'État. Donc c'était l'assistance publique avait cessé de baptiser les enfants. On respectait la mention religieuse. Mais à partir du moment où les enfants étaient déposés dans des fermes en campagne, il n'y avait pas d'éducation juive possible. Donc il y avait juste cette mention sur religion israélite qui a été pour elle un stigmate. Et c'était sans arrêt. C'était bon. Moi un jour j'ai appris, j'avais peut-être même pas, j'étais encore plus jeune, quelqu'un a demandé, qui c'est, mais c'est le fils de la juive, c'est là que je l'ai entendu pour la première fois.
Et votre mère en parlait avec votre père?
Non, jamais. Non, je n'ai jamais entendu...
Pendant la guerre, non.
Je n'ai jamais entendu cela évoqué à la maison. Non. Mon père était de tradition janséniste, mais le jansénisme dans Lyon avait eu pour effet la radicalisation, enfin je veux dire la déchristianisation. Et Donc, c'était ce milieu radical, mais d'origine janséniste. Ma grand-mère avait encore un Christ janséniste que j'ai conservé avec beaucoup d'émotion, parce que l'histoire du jansénisme m'a toujours fasciné. J'ai eu une passion pour Pascal quand j'étais jeune et tout ça. Donc, c'est vrai, des enjeux spirituels ou religieux, c'est vrai, ça fait partie un peu de mon encadrement. Oui. Donc, ma mère a toujours tu cette origine, mais elle a toujours vécu avec la Bible à proximité pour essayer de comprendre ce que c'était qu'être juif, dont elle l'a appris à travers l'antisémitisme, dont elle a beaucoup souffert. Elle s'est convertie très jeune, à 18 ans, elle s'est convertie au catholicisme, et on a eu une éducation catholique. Et elle a eu la chance d'avoir un très bon directeur de conscience, qui était le père Sertilange, qui était un des grands dominicains, qui était très lié aux intellectuels des années 20-30, tout ça, et qui a été son directeur de conscience. Ma mère était une intellectuelle. Elle avait été chassée de l'école à 13 ans. Elle préparait le brevet supérieur. Elle avait eu son certificat d'études très tôt à la campagne. Et son institutrice avait trouvé que c'était exceptionnel. Il l'avait maintenue à l'école au-delà des limites d'âge, puisqu'elle avait donc 13 ans. Et je ne sais pas si c'est l'inspecteur d'académie ou le directeur des enfants assistés, qui est donc responsable de la santé publique, qui a dit, après 1918, ou après la guerre, la Première Guerre mondiale, la France n'a pas d'argent pour faire payer des études aux enfants étrangers. Donc, elle a été obligée de quitter l'école séance tenante. Et quand elle est revenue à la ferme, sa mère nourricière, qui ne l'aimait pas beaucoup parce que il y avait une rivalité entre la fille et elle, la pupille, lui a dit, va curer les vaches, la fourche, c'est plus lourd que le porte-plume. Et ça, c'est une chose qui a énormément blessé ma mère. Et je suis sûr que si nous avons fait des études, c'est à cause de cette exclusion de l'école, qui a été vraiment un traumatisme dans la vie de notre mère, et pour le traumatisme qui nous a conduit à investir beaucoup dans les études.
Et elle vous a donné, Daniel Defer, le goût de la lecture?
Oui,
le goût de...
oui. Alors elle nous lisait, d'ailleurs. Moi, je n'aimais pas tellement lire, et ma mère adorait lire, elle lisait tout le temps. Tous les soirs, il fallait la laisser au moins une heure pour lire. Mmh. Et elle nous a lu très tôt énormément de livres, elle nous achetait des livres. Alors, naturellement, souvent des livres qui nous faisaient pleurer, comme Sans famille,
oui, Sans famille, c'était le livre.
Oui, ça, c'était quand même des grandes lectures. Oui. Puis après, il y avait le Comte de Monte Cristo. Mmh. Bon, dès qu'il y avait de l'injustice, là, on lisait beaucoup.
Les Misérables.
Oui, Les Misérables,
il
ça.
Du chagrin,
ça, on était imbattables sur tout ce qui était misérable, douloureux, souffrance. Ah oui, on a été éduqués dans une sensibilité à ces émotions-là.
Vous racontez, Daniel Defer, dans les entretiens accordés à Éric Favreau et Philippe Artière, que votre mère, est-ce que c'était réel ou est-ce que c'est vous qui le ressentiez, sentait vos désirs et devinait votre orientation érotique.
Oui, c'est très compliqué, c'est très compliqué. Il y a des choses que je n'ai pas dites. Je pense que j'ai eu très tôt le désir d'être une fille. Et je crois que ma mère avait désiré avoir une fille. Quand elle a compris mon orientation sexuelle, elle m'a dit « Tu sais, je n'ai pas vraiment désiré que tu sois une fille. » C'est-à-dire qu'elle dire « Mais ne te crois pas obligée. » Je pense qu'elle l'a culpabilisé un peu là-dessus. Je pense que j'ai désiré être une fille et que j'ai adoré me déguiser au point que pendant des années... Je voulais être couturier quand j'étais jeune. J'avais une grande admiration pour Jacques Fatt, qui était à ce moment-là le grand couturier.
Vous dessinez?
Je dessinais, oui. Je dessinais au point que le directeur de l'école, en retenue, me gardait pour dessiner des robes pour ses filles.
Et ensuite, il donnait les croquis.
Oui. Donc, je faisais des... J'ai fait même un concours, mais j'ai pas été très bien classé. C'est un concours de, l'industrie de la laine. Et je crois que c'est le concours où Saint-Laurent a obtenu le prix. Je crois bien. Mais moi, j'ai envoyé un dessin. J'ai été chez Jean Dessès, j'ai été porter mes dessins chez Germaine Lecomte, qui était les grands noms de la couture quand j'étais jeune. Il y avait ce goût que ma mère m'a laissé me déguiser en fille. J'ai pas mal de photos enfant. Vous savez, c'est après la guerre, je sais que, ou pendant la guerre, je sais pas, on a supprimé ces suspensions de électriques du 19e siècle où il y avait des chapelets de perles vertes, bleues, rouges, enfin, autour des lampes. Vous savez, il y avait des tas. Eh bien, ma mère a pas donné tous ces chapelets de perles pour me faire des colliers. Alors, je pense qu'à un moment, quand elle a compris mon orientation sexuelle, je crois qu'elle est un peu culpabilisée. Et alors, il s'est passé un événement assez curieux. J'étais déjà plus âgé, je devais avoir 13 ans. On est passé devant le grand café de la ville, où c'était l'été, la terrasse était pleine, il y avait des tas de garçons, d'hommes, de tous âges, et je les regardais avec certainement une insistance dont je n'avais pas conscience moi-même. Et quelqu'un, je crois, a crié « pédé ». Et ma mère m'a serré contre elle très fortement, et j'ai eu une vive émotion en me disant « bon...
» Elle est avec moi.
Elle est avec moi. Je pense que ça m'a donné une confiance en moi définitive, et en elle. Et nous n'avons jamais franchement parlé de ces choses-là. Je veux dire qu'il n'y a jamais eu de complicité. Moi, j'ai été très frappé par certains de mes camarades qui en ont parlé avec leur famille. Et leurs familles ont accepté, mais en leur demandant des choses extrêmement précises sur le rôle qu'ils avaient dans la sexualité. Je trouvais ça très indécent. Moi, je n'aurais jamais voulu que mes parents me parlent de leur sexualité. Et je ne voyais pas pourquoi. Moi, j'aurais dû exposer la mienne à mes parents. Mais j'aimais ce respect réciproque. Il y avait une grande pudeur entre mes parents et nous, et je crois que ma mère, en tout cas, a toujours respecté la vie privée de ses enfants. Une chose qui m'avait beaucoup frappé, c'est que moi j'avais cru que l'éducation religieuse qu'elle nous avait donnée était essentiellement pour nous protéger du risque du judaïsme, qu'au moins nous étions baptisés, nous aurions un sauf-conduit. Pendant la guerre, on avait pillé l'appartement et tous les documents qui révélaient son origine ont été volés. Et c'était vraiment quand même quelque chose qui a pesé sur nous pendant la guerre. Donc je pensais que le christianisme n'était pas quelque chose de profond, mais quelque chose de protecteur, notre catholicisme. Et un jour, je découvre que ma mère allait à la messe le matin à 6h30 à l'hôpital de la ville, ce qu'elle appelait la messe des malades ou la messe des pauvres. Et je lui dis, mais pourquoi si tôt à la messe? Elle m'a répondu, ce qui m'a beaucoup ému, pour ne pas vous influencer. Et j'ai senti qu'il y avait un immense respect de la vie privée, même de ses enfants.
Et de la liberté.
Et de la liberté. Ça, je crois qu'on a été élevé dans le respect de la liberté.
Daniel Defer, vous avez mentionné le jansénisme de votre grand-mère paternelle et votre passion pour Pascal.
Oui.
Dans vos engagements, dans votre façon d'être au monde, comment il compte le jansénisme? Qu'est-ce que ça vous donne?
Écoutez, je ne sais pas trop, je ne suis pas très hédoniste. Je pense que... Vous savez, le Christ janséniste, enfin en tout cas le Christ que ma grand-mère m'a légué, c'était un Christ qui a les bras levés, droit au ciel, pas très écarté, c'est-à-dire que sa bénédiction ou ce salut ne s'étend pas sur l'humanité, mais quelques élus. Et ça m'impressionnait. Je pense que ce n'était pas... sans effet. Alors, bon, il y a des vilains matérialistes qui disaient « Oui, mais c'est parce que c'est un Christ qui a été taillé dans de l'os, et l'os est étroit, c'est des crucifix de pauvres, l'os était étroit. Je crois quand même que la valeur symbolique, même les Christ d'ivoire étaient faits comme ça. Enfin, bon,
c'était pas celui-ci. En particulier, ils étaient tous...
Le Christ janséniste, on le reconnaît quand même, on le reconnaît. Je pense que ce n'était pas simplement parce qu'il était taillé dans l'os et pas dans l'ivoire que le Christ de ma grand-mère, que j'ai toujours...
Avait les bras
en l'air. Et alors, pour moi, être d'origine juive, c'était aussi la continuation d'une élection. Si vous voulez, c'est vrai que c'était des thèmes qui, au-delà de... n'était pas sans un certain prestige. Et bon, c'est vrai que j'ai mis très longtemps à m'intéresser à Montaigne. Je préférais lire Pascal, cette austérité. Non, je crois que... et je pense que ma rencontre avec Foucault est certainement liée aussi à cette espèce de goût de l'ascèse, chez l'un comme chez l'autre.
Daniel Defer, après le baccalauréat, vous entrez en hypocagne. Votre hypocagne, vous la faites à Lyon. Pour la cagne, vous venez à Paris.
Non, pour non. La cagne, je reste à Lyon.
Ah, vous restez à Lyon.
Je reste à Lyon. Foucault lui avait fait... Non, la cagne de Lyon était très bonne. Hein. Et alors, j'ai failli venir et je raconte un peu pourquoi je n'ai pas fait ma cagne à Paris. C'est-à-dire que... Ma cagne à Lyon était... j'avais quand même d'excellents profs. C'était une des très bonnes cagnes de province.
Hein. Au lycée du Parc.
Au lycée du Parc, c'était une des... Bon, ça passait pour une des meilleures cagnes. À l'époque, c'était Louis le Grand et le Parc à Lyon qui étaient les très bonnes cagnes. Et j'avais eu la chance, d'être envoyé, adressé à cette... par ma prof de philo, qui était une femme remarquable. Elle avait été reçue première à l'agrégation l'année où elle nous enseignait dans notre collège, quoi. Ce qui était quand même, nous avait impressionné sur sa qualité.
Oui.
Donc, à Lyon, j'étais très bien, remarquable professeur d'histoire. J'ai vu récemment qu'il avait été le professeur d'histoire d'Adulon, qui vient de mourir, et c'était Josephus, c'était un très grand historien qui m'a beaucoup marqué. Et donc, c'était très bien. Et je suis admissible à Ulm, et en passant l'oral... Un garçon qui avait fait sa cagne à Lyon, qui était déjà normalien, m'emmène pour la première fois dans une boîte gay à Paris. Et c'est finalement la fascination, le vertige que j'ai ressenti en entrant dans cette boîte, parce que entre avoir une orientation sexuelle et accepter d'être membre d'une collectivité, de l'affronter, de se faire reconnaître par ce groupe, tout ça, c'est quand même un moment important dans l'histoire d'une vie. Et j'ai eu une espèce de vertige et de peur d'être fasciné par ce qu'était l'entrée dans une boîte gay. Je suis retourné à la cagne de Lyon alors que je m'étais fait coller à l'oral, alors que j'avais été voir Louis le Grand et on m'avait accepté. J'étais admissible à Ulm, donc j'étais parfaitement recevable, puisqu'ils reçoivent les gens qu'ils sont sûrs qu'ils ont, en fait, qui ont le maximum de chance pour le prestige du lycée. Donc,
Lyon, vous protégez des tentations.
Pour me protéger des tentations, voilà, je suis retourné à Lyon et probablement si j'étais resté à Louis le Grand, j'aurais peut-être intégré puisque j'étais deux fois premier collé. Et alors donc, quand je suis allé, j'ai raconté dans ce bouquin cette chose assez drôle, c'est quand je suis entré pour la première fois dans cette boîte, qui était très prestigieuse à l'époque, qui s'appelait le Fiacre, quand j'ai visité les États-Unis deux ans plus tard, en 61, avec les premiers charters que le président Kennedy avait créés, j'ai découvert que cette boîte, le Fiacre, était extrêmement célèbre aux États-Unis. Et donc, je suis entré dans cette boîte et sur le pas de la porte, il y avait deux hommes qui connaissaient mon camarade. Et l'un était Roland Barthes et l'autre Jean-Paul Aron. C'était quand même étonnant comme première rencontre à Paris, quoi.
Merci, Daniel Defer.
C'était À Voix Nue. Cette semaine, Virginie Bloch-Lenné rencontre Daniel Defer. Attaché d'émission, Claire Poinsignon. Prise de son, Yves Lehor. Réalisation, Laetitia Coya. Coordination, Sandrine Trainer. Demain, suite de cette rencontre de Virginie Bloch-Lenné avec Daniel Defer.